Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Je vais vous parler cette semaine d'une excellente maison d'édition. C'est une édition qui est toulousaine, il s'agit des éditions RS. Mais les éditions RS qui sont spécialisées en matière de sciences humaines ont eu à cœur de favoriser la publication donc de la poésie, de l'édition de poésie, en créant une excellente collection Poepsi, c'est le nom de cette collection Poepsi, qui est animée par Pascal Jeannot et Daniel Faugeras. Alors, quelle est la philosophie? Pourquoi une maison d'édition toulousaine va créer cette collection donc de poésie? Ce sont des petits livres de poésie dans une espèce de boîtier en carton, d'un petit format, très facile à ranger dans une bibliothèque, qui sont toujours une espèce de, comme des livres d'artistes, très bien illustrés, très bien mis en page. Ce sont vraiment des objets très très agréables, très esthétiques, absolument délicieux à consulter, à lire. Pourquoi les éditions RS ont voulu créer cette collection Poepsi? Eh bien, tout simplement parce que cette collection se propose de faciliter l'accès à des œuvres poétiques selon un axe qui est défini de la façon suivante que je vais vous lire, et c'est donc le modus vivendi, la philosophie de ces éditions. Les écrivains, disait Freud, sont de précieux alliés, et il faut placer bien haut leurs témoignages, car ils connaissent d'ordinaire une foule de choses entre le ciel et la terre dont notre sagesse d'école n'a pas encore la moindre idée. Ils nous devancent beaucoup, nous autres hommes ordinaires, notamment en matière de psychologie, parce qu'ils puisent là à des sources que nous n'avons pas encore explorées pour la science. Voilà, c'est Freud qui dit ça, donc, à propos des écrivains. Et je crois que c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Le fait de lire beaucoup, le fait de lire les auteurs de fiction, les auteurs d'essais, les auteurs de poésie, contribue, bien entendu, à avoir cette foule de choses, comme il dit, entre le ciel et la terre, dont notre sagesse d'école n'a pas encore la moindre idée. Je crois que c'est toujours vrai. Alors, parmi ces écrivains, le poète ne va-t-il pas plus loin, dont la tâche propre est, selon Rainer Maria Rilke, de traduire, je le cite, « une sensibilité à l'immédiat, à l'intime, à l'obscur ». De, et je cite toujours Rilke, de rapprocher la pure intériorité de la pure extériorité afin que se rassemble ce que nous nous cessons de diviser en étant là, afin d'obtenir que, dans un appel magique, le champ, telle ou telle face plus cachée de l'existence, demeure dans l'espace d'un poème tourné vers nous. Donc à l'éternelle question, au centre de l'existence humaine, comment est-il possible de vivre quand les éléments de cette vie nous sont insaisissables, quand nous sommes toujours insuffisants en amour, hésitants devant la décision et incapables face à la mort, comment est-il possible d'exister? Le poète répond en faisant des choses avec de l'angoisse, en transformant l'angoisse en chose qui, soit sortie du temps et confiée à l'espace, en poème. La poésie, finalement, cette possibilité d'insérer la plainte ou l'excès d'enthousiasme. Dans une totalité qui la résorbe. Voilà donc la finalité de l'existence de cette collection Poepsy, décidée donc par un éditeur des sciences humaines. C'est-à-dire que la poésie n'est pas éloignée des sciences humaines, elle en est peut-être tout simplement la quintessence. Mais la quintessence, difficile évidemment à mettre en règle, à définir comme des règles universelles communes. Alors, cette collection, j'en ai souvent parlé ici, de cette collection Poepsy, de ces petits livres délicieux. Aujourd'hui, je vais vous parler, et j'étais très heureux qu'un poète de Toulouse, qui s'appelle Casimir Prat, qui est venu ici souvent, lorsqu'il publiait un livre, Casimir Prat, qui est membre de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, il est maître jeu de cette académie, Casimir Prat, m'a dit, il y a une pépite, ce sont les textes de Werner Lutz. Les murs sont en marche, les murs sont en marche, qui est publié aux éditions RS Poepsy. Alors, bien sûr, j'ai dit, ben oui, bien entendu, il faut parler de Werner Lutz et du travail magnifique donc de ces éditions de Daniel Faujoras et de Pascal Janot. Alors Werner Lutz, ce poète, il est né en 1930 à Wolhafden, en Appenzell, c'est dans la Suisse orientale. Hein. Werner Lutz, donc, c'est le cadet des 5 enfants d'une famille de petits paysans et de tisserands de soie. La soie, qui les verre à soie. Hein. Très tôt, Werner Lutz, eh bien, il va travailler dans une entreprise qui est une entreprise familiale, puis il suit une formation de graphiste à Saint-Gall. Pardon. Et il s'établira ensuite au bord du Rhin, à Bâle, où il travaillera comme graphiste qualifié, et ensuite à Binningen. D'ailleurs, il y restera jusqu'à sa mort, qui survient en 2016. Donc, il est né en 1930, mort, né en 1930, mort en 2016. Alors, c'est à Binningen qu'il commencera à écrire des poèmes. Alors, ces poèmes seront publiés en 1955 dans une revue, allemande qui s'appelle Akzente, excusez mon accent, hein. Et puis, on va pouvoir le lire dans des anthologies. Je l'ai lu, je crois, dans la première fois que j'ai lu Werner Lutz, c'était, je crois, dans la revue Europe. Dans la revue Europe, oui, je me souviens. Alors, peu enclin à paraître en public, hein, il devra, je pense à Christian Bobin, tout d'un coup, quand je vois ça, peu enclin à paraître en public, comme notre grand poète, hein, Christian Bobin, qui nous a quittés il y a peu de temps. Donc, Werner Lutz devra attendre 20 ans pour pouvoir publier son premier recueil à Francfort, en 1979. Il n'a pas été traduit en français, ce recueil. Dans les années 70, il se met également à peindre et à dessiner. Et il va publier aussi deux autres recueils chez Hamann à Zurich, hein, en 92 et en 96. Toujours pas traduit en français. Mais l'essentiel de l'œuvre de Werner Lutz, surtout de la poésie, quelques textes en prose, a été édité par Waldeck Verglan en Suisse orientale. Voilà pour Werner Lutz. Ce livre, donc « Les murs sont en marche », ce petit recueil, des poèmes très brefs, hein, vous allez le voir, terriblement bref, de Werner Lutz, sont illustrés par Laurent Delaire. Alors lui, il est né en 1971, hein, c'est une génération très différente de la génération 1930. Et il vit en Auvergne, parallèlement à une carrière d'enseignant et de traducteur pour la télévision et l'édition. Laurent Delaire développe une pratique artistique autodidacte à laquelle il se consacre désormais pleinement. Et celle-ci, cette activité, donc, se partage entre la peinture, le dessin et les installations. Voilà. Et puis, la traductrice est Natacha Rudin-Royon, qui a commencé par étudier le polonais et le russe, avant de s'orienter vers la traduction. Alors, elle s'est formée à Angers, puis à Germersheim, en Allemagne, où elle rédige aussi une thèse sur les lieux de mémoire partagés dans des œuvres choisies d'auteurs allemands et polonais. Alors, elle traduit essentiellement de l'allemand, en particulier de la poésie. L'érable contre la maison, elle a traduit par exemple de Manfred Peter Heinde, chez Alidades, excellentes éditions aussi, des éditions Alidades. Sous le Genévrier de Nadja Kirchmenster, aux éditions Chêne, ainsi que des choix de poèmes de Werner Lutz, dont, ah oui, il le cite, pour les revues Europe, Vice-versa Littérature et Reo. Natacha Rudin-Royon s'installe ensuite orientale en 2007 à Bâle, où Werner Lutz a passé l'essentiel de sa vie et l'a pu rencontrer à plusieurs reprises sa compagne, hein, Lili Stolken, qui lui a aussi fait découvrir les dessins et les tableaux de ce peintre et poète qui se souciait sans doute autant de la couleur que des mots. Voilà. Je vais vous faire entendre maintenant ces courts poèmes de Werner Lutz dans ce magnifique recueil « Les murs sont en marche » de la collection Pau et Psy. Le livre vous coûtera 15 euros. Commencer est le premier jour de la création, sortirait des eaux, commencer, et nul n'aurait dit une parole encore. Alors je précise, hein, ça s'arrête là le poème. Commencer et le premier jour de la création, c'est ET, hein, commencer, et le premier jour de la création, sortirait des eaux, commencer, et nul n'aurait dit une parole encore. Voilà. C'est de la poésie, bien entendu, fulgurante, ce sont des fulgurances, donc c'est de la poésie, évidemment, à lire essentiellement. Difficile de faire passer cette poésie, en fait, à la radio. Je pense qu'il y a aussi, dans le travail de Werner Gers, il y a un travail de la musicalité sur la langue, chez Werner Lutz, que je suis désolé de ne pas pouvoir vous faire entendre, n'ayant pas la pratique de la langue allemande. Je continue. Que saurais-je faire de mieux, comme si vous marchiez, comme si vous flâniez, à travers le très simple et son silence d'herbe. Trois vers. Que saurais-je faire de mieux, comme si vous marchiez, comme si vous flâniez, à travers le très simple et son silence d'herbe. C'est une poésie, évidemment, de l'immédiat, de la sensation immédiate, de la fulgurance immédiate, qui peut avoir pour objet le quotidien le plus insignifiant, et qui, grâce au travail de la langue, à ce dépouillement de la langue des mots, arrive à faire surgir une réalité insoupçonnée et qui est l'objet même de la poésie, c'est l'objet même du poème, cette réalité insoupçonnée qui se découvre subitement à partir de peu de choses, de peu de mots, mais qui peuvent suggérer cette réalité née de l'imaginaire, mais qui envahit en définitive toute la vérité d'une réalité qui souvent nous est pas accessible. Rattrapé par des cris, étourdi de tant de lointains, ni le nord, ni le sud, et pas mince, une once de bleu. Rattrapé par des cris, étourdi de tant de lointains, ni le nord, ni le sud, et pas même une once de bleu. On reconnaît bien sûr le peintre, celui qui est attaché à la couleur et qui, se tournant vers le nord et le sud, qui est étourdi par, il dit, de tant de lointains, c'est-à-dire l'infini en définitive des paysages qui peuvent s'offrir à nous. Ces paysages qui sont bien sûr des paysages au sens littéral du terme, mais aussi des paysages de l'âme, puisqu'il dit rattrapé par des cris, hein, et là, pas même une once de bleu. Je continue. Du jaune vient se presser au carreau. Son duvet comme d'une plante, une chenille de lumière rampe jusqu'à moi. Encore le peintre, hein, qui va se dévoiler plus tard. Et on peut dire que Werner Lutz, Lutz ça veut dire aussi lumière, hein. Werner Lutz est omnibulé évidemment par les couleurs, par la lumière, et en regardant donc distraitement par les carreaux ou en s'abandonnant à une espèce de méditation, où va vagabonder son imaginaire, il va voir que sur ses carreaux, il va voir une tache jaune. Ça peut être tout simplement un reflet de soleil. Eh bien, cette tache jaune va être comme, il dit, du duvet comme d'une plante, et une chenille de lumière rampe jusqu'à moi. Voilà. Donc, il y a là aussi ce miracle de la langue qui fait que cette tache jaune va devenir cette chenille de lumière. Hein. L'image est très belle, l'image de la chenille qui avance, et en même temps cette chenille qui apporte la lumière. Werner Lutz. Comme on est seul à vivre dans un relent de misère. Voilà. Deux vers, comme on est seul à vivre, premier vers, dans un relent de misère, deuxième vers, voilà le poème. Un poème d'une frugalité absolue, mais qui en dit tellement, comme on est seul à vivre dans un relent de misère. Combien la solitude, effectivement, peut comporter de misère. Le pays que j'aimais sommeille dans la brume. Il y a bien longtemps déjà que d'autres habitent mon passé. Trois vers. Le pays que j'aimais sommeille dans la brume, premier vers. Il y a bien longtemps déjà que d'autres habitent, deuxième vers. Mon passé, troisième vers. C'est très curieux de dire que les autres habitent votre passé. Mais pourtant, c'est une fulgurance de cette méditation de l'imaginaire de Werner Lutz, qui dit « Le pays que j'aimais sommeille dans la brume ». Donc, son pays, tout d'un coup, se met en sommeil. Mais ça veut dire que il est là, dans le sommeil, il ne se manifeste pas. Et donc, comme lui aussi, il est dans ce pays, lui aussi, en fait, il est dans le sommeil. Et donc, si lui est dans le sommeil, ce sont les autres qui habitent ce pays, qui vont s'emparer de son passé. Voyez, il dit ça en trois vers. Peut-être y aura-t-il entre toi et la fin un jardin, peut-être même un ami. Voilà. Donc là aussi, une fulgurance d'espoir entre toi et la fin, c'est-à-dire que à ce moment-là, il va y avoir un jardin et peut-être même un ami, c'est-à-dire quelque chose de très très agréable qui va surgir. Et lui, il le fait surgir par son imaginaire et par sa pratique de la langue qu'il va tordre, résumer, élaguer, dépouiller à l'infini, jusqu'à n'avoir que cette ossature du poème qu'il va mener à son comble, bien sûr, pour pouvoir avoir cette fulgurance de poésie. Une contrée là-bas et ici cette autre, une vague tardive vient inonder l'après-midi. De vers, simplement de vers. Une vague tardive, hein, vient inonder l'après-midi. Donc, il va y avoir donc une contrée là-bas, et ici, cette autre, c'est-à-dire, tout d'un coup, cette contrée qui est là-bas, et puis une autre, hein, tout d'un coup, vont inonder l'après-midi, c'est-à-dire, vont s'emparer dans la vision du poète, hein, et vont être les images qu'il va avoir de l'après-midi. Et il va recevoir ces images, qui sont les images, en définitive, de la mémoire, de son imaginaire aussi. Et bien, cette image-là va arriver, comme arrive une vague tardive, une vague qu'on n'attendait pas et qui vous surprend. Ces drapeaux que nul n'a jamais déroulés. Un seul vers, un poème. Ces drapeaux que nul n'a jamais déroulés. Rêver jusqu'à la soif et rencontrer un désert. Là aussi, des images contradictoires, mais c'est aussi la vocation du poème. Et en tout cas, on le retrouve souvent, cette idée du paradoxe et de la contradiction chez Werner Lutz. Cette volonté de pouvoir réconcilier les contraires par la langue, par les mots, par le poème, en très peu de mots, hein. Rêver jusqu'à la soif et rencontrer un désert. Donc, il va réconcilier l'idée de la soif et l'idée du désert. Plus tard, quand ce qui s'est produit n'est plus qu'une perte, quand ce qui s'est produit ne vaut plus rien, quand ce qui s'est perdu ne l'est plus du tout, plus tard. Voilà. Plus tard. Donc là, c'est sur la notion de plus tard. Et en même temps, il dit ce qui s'est perdu n'est plus une perte. Quand est-ce que ce qui s'est perdu n'est plus une perte? Je pense en lisant ce poème, je pense à une maxime marocaine qui m'avait frappé au Maroc, j'avais entendu ça. La mort est plus près de nous que notre paupière. Et je ne sais pas pourquoi, oui, je pense à cette histoire-là de plus tard. Ou qui c'est qui a dit « La mort nous talonne, nous la donnons aux autres ». C'est cette notion de plus tard. Plus tard, on va remettre ça à plus tard, hein, quand ce qui s'est perdu n'est plus qu'une perte, hein, n'est plus une perte, et bien plus tard, plus tard. Un souffle frais chahute ses lignes. Aucune honte en moi. Voilà. Donc ça veut dire que le poète n'a pas... Il assume ses écrits. Aucune honte en moi, oui. Le poème, il naît de ça. Parce que tout d'un coup, Eh bien, j'ai senti un souffle frais. Eh bien, ce souffle frais, je vais le mettre dans le poème, ça. Il dit « Chahute ces lignes ». Ces lignes, ce sont évidemment les lignes des mots qui écrivent le poème. Il y a deux lignes. Eh bien, oui, il assume aucune honte en moi. Faudra-t-il vraiment, une fois encore, faucher cette herbe coupée depuis des lunes, la retourner, la sécher, et ces affreux moustiques d'alors, les terrasser sans relâche? Là aussi, un poème. Alors, c'est écrit, bien entendu, sans accentuation, hein. Il n'y a absolument aucune accentuation. Faudra-t-il vraiment, une fois encore, faucher cette herbe coupée depuis des lunes, la retourner, la sécher, et ces affreux moustiques d'alors, les terrasser sans relâche? Bon. Voilà, ça constitue un poème. Alors, c'est aussi un poème du quotidien, hein. C'est qu'il faut, il a fauché l'herbe. Cette herbe, elle est fauchée depuis des lunes. Maintenant, il va falloir, c'est pas fini de la faucher, hein. Non seulement il faut la faucher, c'est déjà pénible, c'est une tâche. Mais en plus, il va falloir la retourner, cette herbe, il va falloir la sécher. Et puis, c'est pas tout. En plus, il va falloir, dans ce travail de retournement et de séchage, il va falloir supporter, donc, ces affreux moustiques. Et il va falloir les terrasser sans relâche. Voilà. Il exprime un quotidien, d'une façon poétique, on ne peut plus, hein, on ne peut pas faire mieux, avec des mots, vous l'avez vu, d'une grande simplicité, dépouillement, hein, il n'y a pas d'adjectif, par exemple, hein, aucun adjectif, aucun adverbe, rien, voilà, mais il exprime quelque chose, une sensation, une fulgurance, qui constitue donc le poème pour Werner Lutz, et il aurait pu mettre ça. C'est en fait, souvent je me suis dit que peut-être ces poèmes comme ça, comme des haïkus, très courts qu'il fait, lapidaires, ce sont des poèmes qui remplacent peut-être ce qu'il ne pouvait pas véritablement pouvoir illustrer, peut-être aussi par la peinture, par ces manifestations artistiques différentes, par des installations. Pourquoi grimper aux arbres si c'est pour cracher sur les nuages? Alors voilà, donc il a de l'humour aussi, hein. Bon, c'est un poème qui fait rire. Pourquoi grimper aux arbres si c'est pour cracher sur les nuages? Voilà. Bon, pour lui, c'est ça, s'il grimpe aux arbres, c'est pourquoi? C'est pour cracher sur les nuages. Donc c'est une très belle. Voilà, on sait bien quand même que les nuages sont à une sacrée distance, quand même, de la cime des plus hauts arbres. Mais voilà, il est plein d'humour, plein de légèreté, et il va fixer le poème dans cet humour, dans cette légèreté. Et la poésie en sera toujours grandie. Attendre tranquillement de savoir comment je pourrais me dissoudre. Voilà, là c'est terrible, hein. Il y a trois vers. Attendre tranquillement, premier vers, de savoir, deuxième vers, comment je pourrais me dissoudre, troisième et dernier vers. Là aussi, on est sur, on pourrait dire une espèce de sérénité un peu stoïcienne. Hein. Oui, je vais me dissoudre, parce qu'en définitive, tout le monde va se dissoudre. Mais moi, j'attends tranquillement de savoir comment ça va se faire, cette dissolution. Bon, le comment, savoir comment, évidemment, est une des angoisses existentielles. Eh bien, lui, il va pouvoir, cette angoisse, l'attendre tranquillement. Donc, sans, c'est-à-dire, tout simplement, eh bien, la nier, cette angoisse, ne pas la ressentir, et tout simplement, parce qu'il va créer le poème. Et c'est en créant ce poème, aussi fulgurant soit-il, aussi lapidaire soit-il, qu'il va pouvoir attendre tranquillement. Et puis ce poème également avait deux vers simplement. Silence au pluriel, de temps moulu très fin. Silence, de temps moulu très fin. Voilà. Là, il y a peut-être tout le génie de Werner Glutz dans ces quelques mots. Silence, qu'il va mettre au pluriel. Donc, ce sont les silences de temps moulu très fin. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le silence ? Eh bien, il explique que lui, les silences, pour lui, c'est du temps que l'on a moulu très fin. Voilà. Bien loin encore des jours plus obscurs, à fraterniser toujours avec mille insouciances, à poursuivre ce dialogue avec l'instant. Voilà. Alors il explique effectivement que son dialogue imaginaire se situe avec ce qu'il y a de plus difficile au monde, de percevoir. On peut percevoir le passé sans problème, si on a une bonne mémoire. On peut appréhender l'avenir, d'abord si on a un bon imaginaire, ou si on a une bonne science, des connaissances aussi de ce qui peut survenir. Mais l'instant, comment dialogue-t-on avec l'instant ? Et justement, on retrouve là les silences de temps moulu très fin. C'est quoi ces silences de temps moulu très fin ? Pour moi aussi, ce sont les instants qu'il va moudre très fin, et il va les moudre dans des silences, hein, pour voir fraterniser, toujours avec mille insouciances, à poursuivre ce dialogue avec l'instant. Donc, être dans le présent, c'est certainement ce qu'il y a de plus difficile à réaliser au monde. Être dans le présent, être présent dans l'instant, c'est-à-dire être présent à soi-même en permanence. Et il peut l'être, et il fraternise dans cet instant-là, lui, il fraternise, il dit, avec mille insouciances, hein, pour poursuivre effectivement ce dialogue avec l'instant. Et comment il le poursuit, ce dialogue avec l'instant, si ce n'est, bien entendu, par la création du poème, Werner Glutz. Ça ne fait rien. Un rire aussi peut voler un éclat. Voilà. Bon, là, on retrouve l'humour, la légèreté, le ton prime sautier aussi, de Werner Glutz, hein, qui fait un jeu de mots. Rire aux éclats, et lui, il dit, ça ne fait rien, un rire aussi peut voler un éclat. Voilà. Donc, puisqu'un rire peut voler un éclat, après tout, c'est pas bien grave, si d'autres choses volent un éclat. Assez, dis-je, sans rien d'autre entre les mains que la clarté qui s'en va. Voilà. Bon, là, quand la clarté s'en va, évidemment, si la lumière fuit, et c'est quand même terrible. Et assez, lui dit assez. Il ne peut dire que ça. Rien que de misère par ce temps. Des rails qui se croisent, des flaques d'huile, des passes à ras, herbes folles, tous les autres, oui, c'est sûr, herbes folles. Voilà, un poème d'une simplicité désarmante. Trois vers. Trois vers pour dire quoi ? Rien que de misère par ce temps. Donc, pour dire certainement la misère d'un quotidien, qui est... quelles sont ces images ? Des rails qui se croisent, des flaques d'huile, des passaras, c'est franchement... Ce sont des images qui ne sont pas, qui sont presque sordides. Des passaras, des flaques d'huile, des rails qui se croisent, ça n'engage pas évidemment à voir l'euphorie de la lumière. Et puis il dit, herbe folle, tous les autres, oui, c'est sûr, herbe folle. C'est quoi des herbes folles? Ben, ce sont des herbes qui ont pour elles le fait de pouvoir avoir cette liberté absolue, mais également ce hasard qui a fait qu'elles sont là, mais sans aucun ordre, sans aucun désir aussi de qu'elles aient été là. Hein, elles sont folles. Oui, c'est sûr. Herbe folle. Voilà. Donc là aussi, une fulgurance d'une sensation donnée par un langage excessivement dépouillé, mais un langage avec aussi ces métaphores, des rails qui se croisent, des flaques d'huile, des passaras, qui dégagent en si peu de mots une impression, une sensation qui est l'essence même du poème. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison, mais la blessure par laquelle la mort entrera en nous. Voilà. Trois vers. Trois vers d'une intensité terrible. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison, mais la blessure. On dit, qu'est-ce qu'elle va faire, cette blessure? Eh bien, elle va faire entrer la mort en nous. Donc c'est cette blessure qui est importante. Cette blessure qui est la blessure universelle, évidemment, puisque la mort est universelle. Et donc, par rapport à cette blessure, c'est vraiment dérisoire d'avoir raison. C'est ce qu'il nous dit là, le poème. Et ça calme un peu les ardeurs de ceux qui sont éloignés du doute. Trop tôt encore pour oser quoi que ce soit, pense le vieux qui m'habite. Alors on retrouve l'humour, la légèreté de Werner Glutz dans ces deux vers. Trop tôt encore pour oser quoi que ce soit. Bon. Pense le vieux qui m'habite. Donc il y a la lucidité du poète. Et je crois que Werner Glutz, dans toutes ces poèmes-là de ce recueil, Les murs sont en marche, c'est le titre de ce recueil, je le rappelle, sa lucidité est évidente. Et le poète peut-être n'est rien d'autre, peut-être comme tout artiste, hein, que quelqu'un qui est doué d'une lucidité qui prime sur tout le reste, une lucidité qui va créer la nécessité d'écrire. C'est cette lucidité qui va créer, cette nécessité avec laquelle il ne peut pas lutter, il est obligé de faire face à la nécessité d'écrire. Et voilà. Et alors il dit quoi de ce poème? Trop tôt encore pour oser quoi que ce soit. Bon, pense le vieux qui m'habite. Donc je me dis, je suis peut-être vieux, effectivement, mais pas tout à fait assez vieux pour oser quoi que ce soit. C'est trop tôt. C'est trop tôt. On va attendre un peu. Il avait déjà dit d'ailleurs dans un poème précédent. Il est toujours temps d'attendre. Il est toujours temps d'attendre. Voilà. Parce que, évidemment, oser quoi que ce soit, c'est aussi se rapprocher de l'instant fatal. Nulle inscription, nulle fioriture, juste des collines, collines de terre, collines de pierre, et si peu d'eau. Voilà. Alors on retrouve le peintre là, hein. Nulle inscription, nulle fioriture, juste des collines. Alors il est souvent inspiré par les paysages des collines, hein. Par les lieux qu'il a habité, et il remarque que dans ces collines, il voit ces collines, mais il manque quelque chose, il manque de l'eau, il y a si peu d'eau. Noué à l'espalier, les vers d'un poème. Rien d'autre. Voilà, il est tout entier dans ce poème de deux vers. Le premier, c'est, premier vers, noué à l'espalier, les vers d'un poème. Deuxième, rien d'autre. Voilà. Les vers d'un poème, mais on n'a pas besoin d'autre chose, puisque on a les vers d'un poème, ça suffit. On a tout, puisqu'on a, on a ce qu'on cherche. C'est les vers d'un poème. Si on les a trouvés, ces vers, on a tout. On a rien d'autre. Il ne faut rien mettre d'autre. Et puis, ce poème en un vers, simplement. Inspirer la poussière de ses propres désirs. Malheur. Vous vous rendez compte, dans ces peu de mots, inspirer la poussière de ses propres désirs. Tout ce qu'il y a là-dedans. Dans ce vers d'une simplicité absolue, inspirer la poussière de ses propres désirs. C'est nous, nous-mêmes, qui allons pouvoir inspirer ses propres désirs. Et comment? Eh bien, parce que ces désirs-là, on va les faire naître de la poussière qu'on a inspirée. C'est-à-dire, c'est quoi la poussière qu'on inspire? Ce sont des fragrances d'imaginaire, des parfums comme ça, de l'imagination qui arrivent constant et qui vont inspirer donc cette poussière de parfums qui vont évidemment susciter nos désirs propres, nos propres désirs. Voilà. Hein. Comment il arrive, un poète arrive à dire en si peu de mots quelque chose qui est autant changé de sens, puisque, en définitive, le propre aussi du poète, c'est de pouvoir attraper ces fragrances de lumière, ces fragrances d'inspiration, qui vont être ses propres désirs, ces désirs qui, bien entendu, vont ressurgir après dans la création, dans le poème, ou dans la peinture, dans le tableau. Werner Lutz. Bientôt viendra l'action de grâce, puis le café et l'oubli badigeonné de beurre. Ah. Alors bon, il s'inspire du quotidien, puisqu'il veut faire entrer le quotidien dans le poème, puisque le poème est inspiré, comme il vient de le dire tout à l'heure, il faut comprendre ça aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'interdit rien comme objet du poème, et il n'interdit rien pour l'inspiration du poème. Donc elle lui vient de quoi? Bientôt viendra l'action de grâce. Alors grâce, il le met bien entendu au pluriel, ce sont les grâces, dans le sens sacré du terme, religieux du terme. Puis le café. Donc, oui, l'instant du café, c'est un instant important qu'il va coucher dans ce poème, le café, et l'oubli badigeonné de beurre. Alors, bien sûr, quand il prend le café, on comprend, dans ce verre, l'oubli badigeonné de beurre, on comprend bien sûr que ce café, il va le prendre avec une tartine qu'il va beurrer. Et en beurrant sa tartine, eh bien, il va oublier peut-être ce qui fait la lourdeur d'un quotidien à prévoir, d'une journée à prévoir, de choses désagréables. Et c'est pourquoi, eh bien, comme il dit au départ, bientôt viendra l'action de grâce. Donc c'est en buvant ce café et en badigeonnant sa tartine de beurre que son esprit va vagabonder, va s'évader, va aller vers l'imaginaire qui va le conduire vers l'action de grâce. Voilà, en deux vers, il dit l'essentiel. Bientôt viendra l'action de grâce, puis le café et l'oubli badigeonné de beurre. Donc, ça va lui donner, bien entendu, pour arriver à cette action de grâce, ça va lui donner l'oubli. Ça passe par l'oubli de ce qu'il y a de plus rébarbatif, peut-être, dans la vie quotidienne. Personne ne te verra lancer le bras pour happer la pénombre. Voilà. là aussi, une fulgurance d'une vision qu'il a eue, aller lancer le bras dans la pénombre. Eh bien, oui, comme c'est la pénombre, personne ne verra ce bras qui va essayer de happer la pénombre. Mais il y a aussi une métaphore dans ce bras qui veut happer la pénombre. C'est quoi ce bras qui veut happer la pénombre? C'est ce bras qui va saisir la pénombre. On ne peut pas la saisir, mais lui, il va essayer de la saisir. Et effectivement, il va malgré tout la saisir, puisqu'il va la saisir en lançant le bras. Mais comme il décrit ceci, il va saisir cette pénombre par le poème qu'il crée du fait d'avoir lancé le bras que personne n'a vu. Des noms, cette fine couche de cendre sur leur braise, des noms qui vous mordent de leurs dents de rat. Alors là, donc, il ne dit pas des mots, ce sont des noms. Des noms, c'est différent des mots. Cette fine de couche de cendre sur leur braise, des noms qui vous mordent de leurs dents de rat. Voilà. On peut aussi, je pense, trouver l'universalité de ce poème, d'une simplicité aussi confondante, mais d'une grande force, puisque ces noms, il dit, ils vont vous mordre de leurs dents de rat. C'est-à-dire, c'est une image terrifiante de ça, d'être mordu par des dents de rat. Hein? C'est repoussant, c'est terrifiant. Eh bien, oui, il y a des noms comme ça où l'évocation vont faire surgir dans votre pensée, dans votre imagination, vont vous faire surgir dans des images et des impressions aussi douloureuses que des morsures de dents de rat. Allons prendre dans nos filets l'eau trouble des jours, passer un chiffon sur le monde collé au carreau, balayer les pas dans le caniveau, peigner les branches des arbres, tous les oiseaux, mettre de côté nos mains, oublier de respirer, allons oublier. Qu'est-ce qu'il a voulu dire là, Werner Lutz? Allons prendre dans nos filets l'eau trouble des jours. Passer un chiffon sur le monde collé au carreau. Balayer les pas dans le caniveau. Peigner des branches des arbres, tous les oiseaux. Mettre de côté nos mains, oublier de respirer. Allons oublier. Belles images partout, hein? Prendre dans nos filets l'eau trouble des jours. Passer un chiffon sur le monde collé au carreau. C'est quoi passer un chiffon sur le monde collé au carreau? C'est ce monde, en passant le chiffon, ce monde qui est à la portée de tous. Et qui, effectivement, peut être aperçu de tous. Mais ce monde, il est dans les carreaux, là, il faut le regarder dans les carreaux, mais il peut être flou, il peut être entaché de saleté, donc du carreau, qui fait que on ne le voit pas bien. Donc, en passant le chiffon sur le monde, eh bien, on va faire apparaître le monde sous un jour meilleur. Le monde va se laisser voir sous un jour beaucoup plus favorable, puisqu'il ne sera pas caché par la saleté du carreau. De même que Il faut balayer les pas dans le caniveau, comme il dit. Et puis, il faut peigner les branches des arbres, tous les oiseaux. Tous les oiseaux sont là, dans les branches des arbres. Et puis, il va falloir mettre de côté nos mains, oublier de respirer, allons oublier. Donc, c'est un éloge de l'oubli. Et c'est quoi cet éloge de l'oubli ? C'est en définitive un éloge de l'oubli de soi. C'est ainsi que moi je lis ce poème de Werner Lütz. Ce poème qui est merveilleux par tout ce qu'il peut sous-entendre dans ces si peu de mots. L'oubli de soi, allons oublier. C'est oublier, s'oublier soi-même. Et c'est en s'oubliant soi-même, bien entendu, que souvent on peut faire don de soi et que l'on peut faire surtout don de soi au monde, c'est-à-dire de pouvoir voir aussi le monde dans ce qu'il a, effectivement, les oiseaux dans les arbres, les pas dans le caniveau, le monde collé aux carreaux, mais des carreaux qui sont nettoyés. Voilà, un monde qui apparaît dans sa beauté, dans sa beauté poétique. Tout d'abord, faire le contraire, mourir, c'est pour après. Voilà. Alors, deux vers, qui dit bien ce qu'est la pensée de Werner Lütz. Et c'est un hymne à la vie, ces deux vers. Tout d'abord, faire le contraire, mourir, c'est pour après. C'est-à-dire, vous êtes toujours à temps de mourir, faites le contraire, occupez-vous de la vie, parce que la vie, effectivement, qu'il condense là dans ces deux vers dans le poème, la vie, ben, il faut la vivre. Voilà ce que nous dit Werner Lütz. Hein, et vous voyez combien ces poèmes, qui sont très brefs, sont d'une excessive richesse. Je rappelle, Werner Lütz, Les murs sont en marche, aux éditions Poepsie. Le livre vous coûtera 15 euros. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanio et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.